À 8h21, à suivre l'invité de la matinale.
France Inter, Karine Bécard, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end.
Et bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Secrétaire général de la CFDT, ce samedi sera une nouvelle journée de mobilisation des antipasses. Pourquoi estimez-vous décidément que votre centrale n'a rien à faire à leur côté ?
Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il ne faut pas négliger que parmi les gens qui manifestent samedi après samedi depuis le début de l'été, il y a des gens qui sont infréquentables pour une organisation syndicale comme la CFDT.
Lesquels ?
Ce sont tous ceux qui sont d'extrême droite, qui sont complotistes, qui sont antisémites, on l'a vu, et qui finalement se servent de cet argument-là pour pousser leur avantage et pousser leurs idées. Ils sont assez nombreux quand même. Ils sont assez bruyants, il ne faut pas le négliger, on n'a rien à faire avec ces gens-là.
La deuxième raison,
parce que nous ne sommes pas anti-pass et nous ne sommes pas anti-vax. Le vaccin, c'est la seule condition qu'on ait trouvée pour l'instant, que les scientifiques aient trouvée, pour sortir de cette période très difficile qu'on vit depuis un an et demi, qui est une restriction finalement de nos libertés individuelles et collectives à cause d'un virus. Et donc, je distingue, moi, dans ceux qui vont manifester, ceux qui sont de la première catégorie, et que je rejette, et je crois qu'il faut quand même combattre, et ceux qui, c'est vrai, il y a une part de citoyens qui sont las, fatigués, que ce virus et les décisions qui sont prises, les décisions sanitaires, eh bien, restreignent finalement leur capacité de mouvement, de liberté, etc. Et donc, je les respecte, je respecte une partie de ces manifestants qui, je ne partage pas leurs idées, mais qui pensent qu'il ne faudrait pas ces mesures sanitaires. Mais donc, on n'a rien à faire dans des manifestations de ce type, tout simplement parce que notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que dans le monde du travail, les applications sanitaires se passent le mieux, respectueusement pour les travailleurs, dans le dialogue social, et qu'on puisse vaincre enfin ce virus.
Depuis lundi, on a 1 800 000, je crois, salariés qui sont soumis donc au pass sanitaire pour pouvoir exercer leur métier. Est-ce que vous avez déjà des remontées de terrain ? Combien de salariés, au final, continuent de refuser cette obligation, au risque donc de perdre leur emploi ?
Pas beaucoup. Très clairement, pas beaucoup.
10%, 5%,
on n'a pas de chiffrage. Hein. Ce serait hasardeux et je pense que ce serait un peu... Ce serait manipulatoire de dire qu'on a des chiffres. Nous, on fait le point de tous les secteurs professionnels, quasiment tous les jours, concernés pour voir où sont les problèmes. C'est assez paradoxal, d'ailleurs. On a des équipes syndicales qui, des fois, disent ça se met pas dans les bonnes conditions, donc il faut aller voir les employeurs pour dire, attendez, il faut faire autrement. On a des équipes syndicales qui râlent parce que leur employeur ne réclame pas le pass sanitaire. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, hein, la période qu'on traverse. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la catastrophe annoncée. Moi, le pass sanitaire, franchement, je m'en passerais bien, comme tous les Français. Le seul truc, c'est qu'on le voit bien dans certains secteurs, c'est aussi les conditions pour travailler dans un peu plus de sérénité.
Lesquels ? Les cafés, par exemple ?
Ouais, les cafés. D'abord, on a tous pu constater en allant boire un café que finalement, c'est pas si compliqué que ça de présenter son truc, son pass. Et puis, mais même d'autres. Enfin, moi, je vous rappelle que en janvier-février, la CFDT, comme les autres organisations syndicales, disait, attendez, il faut des gens prioritaires pour les vaccins. Les gens prioritaires, c'est les gens qui sont exposés. On le disait pourquoi ? Parce qu'on voulait protéger les travailleurs. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une protection par le vaccin et pour un autre par un autre dispositif parce que ils sont exposés à du contact, bah voilà, c'est plutôt bien. Par contre, il faut que ça se passe dans le dialogue. Moi, ce que je veux pas, c'est que l'employeur le fasse de façon très autoritaire, ne prenne pas le temps de dialoguer si jamais il y a quelqu'un qui est réticent. Enfin, c'est ça qu'il faut. Il faut remettre un peu d'apaisement dans tout ça.
Et donc, ça dépend du patron finalement plus que de la politique d'instaurer un pass.
Oui, ça dépend. Mais vous savez, moi, ce que je reproche, c'est pas les mesures sanitaires, vous l'avez compris. Ce que je reproche trop souvent, c'est la façon dont elles sont construites et mises en œuvre. On a l'impression qu'il faudrait cliver sur ce sujet-là. Il n'y a pas besoin de cliver. Encore une fois, le pass sanitaire, ça nous fait marrer ni les uns ni les autres.
Mais qui clive ? De qui vous parlez ?
Ceux qui sont dans la rue aujourd'hui et ceux qui pensent qu'il faut leur répondre sur le ton il y a les méchants, alors je parle pas des gens d'extrême droite, vous avez compris ma détermination à lutter contre eux. Mais
enfin, vous aurez noté aussi que parmi les manifestants, notamment à Paris aujourd'hui, il y aura 5 cortèges dont ceux qui ne veulent pas manifester aux côtés des sympathisants de Florent
Philippot. Voilà, et donc cela, il y a pas besoin de cliver, il y a besoin de dialogue, il y a besoin d'expliquer. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de contre-vérités qui circulent sur le vaccin, il y a beaucoup de contre-vérités qui circulent aussi d'ailleurs sur le pass sanitaire, et l'idée, c'est plutôt d'avoir une logique de mise en œuvre de ces mesures explicatives, pédagogiques, ou pas au sens pour expliquer comment on fait, mais au sens pourquoi vous avez peur, etc. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et dans les entreprises, c'est finalement ce qui se passe.
Laurent Berger, quel est aujourd'hui, en cette rentrée, l'état de tension que vous percevez dans notre société ? Est-ce qu'il y a un risque pour que ça déborde ?
Moi, je ressens beaucoup d'inquiétude liée à l'incertitude. plus que de colère, finalement. Et c'est très différent d'un secteur à l'autre. Vous savez, moi, je me méfie beaucoup des analyses macro. Elles sont absolument nécessaires. Bah, par exemple, on nous dit la reprise économique est là, c'est vrai, et tant mieux. Mais ça dépend, elle n'est pas là forcément pour tout le monde.
L'emploi, ça va mieux.
Ouais, ça va mieux. Mais il y a certains secteurs, c'est inquiétant. Ce que je sens des salariés, c'est qu'il y a une forme d'inquiétude. D'abord, cette incertitude sanitaire, l'incertitude liée au contexte économique, même s'il va beaucoup mieux, et puis les problèmes à hauteur de femmes et d'hommes. Enfin, on oublie d'en parler, la question d'évolution du travail. Aucun d'entre nous n'est revenu au travail de la même manière qu'il était parti en mars.
On va en parler dans un instant.
La question de l'emploi, la question de la formation, la question des salaires, etc. Donc, moi, je sens beaucoup d'inquiétude, d'incertitude, et ça peut donner, j'en sais rien, personne n'est météorologue social, mais ça peut donner, en tout cas, plus de ressentiment. Vous avez reçu hier, sur cette antenne, Pierre Rosanvallon. Je trouve son livre extraordinaire. Je pense qu'on prend pas assez compte le sentiment, la façon dont les gens ressentent les choses, et à travers les
épreuves... Les politiques ne prennent pas suffisamment compte ce ressentiment-là.
Oui, je crois
ils ont le ton juste en ce moment, ou pas, nos politiques?
Écoutez, sur la politique sanitaire, il y a des choses qu'il aurait fallu faire autrement, mais c'est pas le moment de... Et je ne suis pas un grand spécialiste. Sur la question économique et sociale, sur la façon dont ils ont, pendant cette période, tenu un peu l'économie, et il n'y a pas grande critique à faire. Moi, ce que je critique aujourd'hui, c'est on est au moment de bascule. Ce moment de bascule, c'est la capacité à faire en sorte qu'on change de modèle productif. Mm-hmm. Vous avez parlé de la biodiversité sur cette antenne tout à l'heure. Eh bien, si on veut construire un autre modèle de développement, eh bien, il faut de nouveaux indicateurs. Pas simplement la croissance économique. Il faut de la justice sociale. Et ça ne sera pas simplement des mesures, des dispositifs. Ce sera aussi une autre idée de la redistribution. Et il faut aussi des pratiques démocratiques qui associent plus les acteurs, les citoyens, la société civile.
D'ailleurs, vous parliez récemment d'une fatigue démocratique. C'est là que vous la situez ?
Oui. Oui, et d'ailleurs, quand je parlais d'une partie des manifestants aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette fatigue démocratique, qui est complexe. Hein. Mmh. Elle est liée au fait que ce qu'on peut produire comme information, par exemple, sur une antenne comme celle-ci, bah, pour certains citoyens, ça vaut pas plus que le tweet de quelqu'un qu'on connaîtra pas et qui dira une contre-vérité. Mais elle est aussi liée, et il y a une responsabilité, c'est que on est aujourd'hui dans un exercice du pouvoir qui prend pas assez en compte la vie à hauteur de femmes et d'hommes des citoyens, et qui surtout prend pas assez en compte la complexité de la société, ses différentes composantes, la société civile, les territoires. Je vous prends un exemple. On a un plan de relance. On peut le critiquer, il n'est pas assez écologique de notre point de vue, il faut investir davantage dans les compétences, mais il ne met pas assez en avant les territoires. Beaucoup de choses se passeront dans les territoires. Il faut donner la capacité à agir, du pouvoir d'agir aux
Emmanuel
citoyens.
Emmanuel Macron dit hier à Marseille, la déconcentration, ça ne marche pas à tous les coups. La décentralisation, pardonnez-moi, ça ne marche pas à tous les coups, la preuve.
Mais l'hypercentralisation, ça ne marche pas à tous les coups. C'est la façon dont on construit les politiques, on les met en œuvre et on associe les gens qui sont chargés et de leur mise en œuvre et de les vivre d'une certaine manière. Et ça, je crois qu'on a un déficit de ce côté-là.
Et sur la fin du quoi qu'il en coûte, vous demandez, vous, à la CFDT, le maintien des systèmes d'aide dans des secteurs en difficulté, mais est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'a prévu Bruno Le Maire, d'aller toujours soutenir l'hôtellerie, le tourisme, au cas par cas, s'il y a besoin?
Oui, mais il n'y a pas besoin d'être toujours en contradiction.
Ah, vous le demandiez, or c'est acquis, ça.
Oui, mais ce n'était pas forcément acquis. Mais nous, ce qu'on demande en plus, c'est que maintenant, on regarde aussi ce qu'est la contrepartie.
C'est-à-dire
ça veut dire qu'on a... il faut que les entreprises passent d'une logique de guichet au ministère du Travail, au ministère de l'Économie, pardon, à une logique d'implication dans la négociation sociale, notamment sur la question des salaires. Vous parliez de l'hôtellerie, café, restaurant. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des difficultés de recrutement dans ce secteur. Pourquoi ? Les conditions de travail, les salaires, l'organisation du travail, on connaît ces sujets-là. Eh bien, puisqu'on continue de maintenir des aides, et il faut continuer dans ce secteur-là, eh bien, il faut contraindre à des négociations de branche sur les politiques salariales. Et là, le ministère de l'économie, il a un rôle. Il pourrait très bien dire, oui, on va verser. On va continuer de verser les aides, et on n'est pas contre, mais vous êtes contraint d'ouvrir des négociations dans les branches, sinon les aides, vous ne les aurez pas.
Mais le café qui a fermé son établissement pendant plusieurs mois, il n'est pas en capacité là, d'augmenter les salaires de ses employés.
Oui, mais vous savez,
c'est pas possible, c'est pas le bon exemple.
Si, c'est un très bon exemple. Ce secteur-là, il a souvent bénéficié d'aides, il n'a jamais redistribué. Hein. Nous, on a un peu de mémoire, il y a eu la TVA.
Mais quand on a fermé pendant 4 mois, 5 mois,
mais
on fait comment ?
Ça repart dans certains secteurs. Mmh. Vous savez, sur l'ouest de la France, où j'ai passé un peu de temps pendant l'été, ça a pas mal fonctionné. Ça a même très bien fonctionné.
Mais Laurent Berger, y voir clair, parce que...
ce même secteur dit qu'on a des difficultés de recrutement. On a des besoins de recrutement. C'est bien que ça fonctionne et qu'il y a de l'activité, mais dans ce cas, interrogeons-nous pourquoi des gens, des salariés ne veulent pas aller dans ce secteur-là. C'est aussi, parfois, par des questions de formation, hein, on le sait, mais aussi sur des sujets d'augmentation salariale.
Ces entreprises qui prennent qui peinent à recruter, et donc ça va appeler des augmentations de salaire. D'un côté, Bruno Le Maire dit, voyez ça avec le MEDEF et les patrons, parce que nous, on n'y est pour rien. Et de l'autre côté, le MEDEF répond, mais non, c'est à l'État et de donner l'exemple. Dans cette opposition, vous vous situez où?
Non, mais moi, vous savez, ça me fait sourire et ça m'inquiète, le débat aujourd'hui sur la question des salariales. On a l'impression que tout le monde est d'accord sur des augmentations de salaire dans certains secteurs, mais tout le monde se renvoie à la patate chaude. Clairement, il y a une responsabilité des employeurs, on ne va pas se raconter l'histoire. Mais la responsabilité de l'État, elle est quoi? Elle est de les contraindre. Nous, depuis le début du versement des aides, pas au moment où il y a eu l'urgence en mars 2020, mais
juste après, c'est-à-dire
eh bien, ça veut dire qu'il faut conditionner le versement des aides aux entreprises. À un certain nombre de dispositifs. Et on peut les contraindre...
Non mais attendez, des dispositifs, c'est-à-dire qu'il faut dire, faut vous acceptiez de recruter 10% de salariés en plus.
Ça veut dire que vous ouvrez des négociations de branche dans tous les secteurs. Vous avez des difficultés de recrutement dans la prévention sécurité, eh bien, on peut vous aider, y compris avec des dispositifs de formation, etc. Mais réfléchissez aux conditions d'emploi dans votre secteur.
Mais est-ce que la situation
les conditions d'emploi, c'est les salaires, les conditions de travail.
Est-ce que la situation économique de la France aujourd'hui est si florissante que ça? On a juste retrouvé, si j'ai bien compris, la situation d'avant crise Covid.
Pour l'emploi.
Donc c'est pas non plus extraordinaire.
Elle n'est pas florissante. Je vous cite des secteurs. Mmh. Moi, c'est là où le débat, m'agace, c'est qu'on a l'impression que c'est tout pareil pour tout le monde. Non, il y a certains secteurs où on le sait depuis la difficulté de recrutement, c'est pas nouveau dans la prévention sécurité, c'est pas nouveau dans l'hôtellerie, café restauration, c'est pas nouveau dans l'agroalimentaire, etc., etc. Je vous prends l'exemple de l'agroalimentaire. Qui a fonctionné, hein, qui s'en est bien sorti pendant cette crise, évidemment, et heureusement qu'il y avait ces travailleurs et ces entreprises qui fournissaient ce dont nous avions besoin. Eh bien, les négociations de branche dans ce secteur-là ont été ridicules. Les propositions d'augmentation de salaire alors que les entreprises ont fait des marges étaient ridicules. Les entreprises restaurent leurs marges aujourd'hui. Les marges des entreprises ont progressé ces derniers mois. Et donc, c'est pas anormal que dans des secteurs où c'est difficile de recruter, il y ait des négociations salariales avec des propositions décentes. Et ça n'a pas été le cas, par exemple, dans l'agroalimentaire.
Et vous demandez ça où aussi? Quelles autres entreprises?
Prévention sécurité, distribution, hôtellerie, café, restaurant, voilà.
Vous avez été reçu avec d'autres syndicats et organisations patronales en fin de semaine à Matignon. Vous avez définitivement, pensez-vous, enterré la réforme des retraites, au moins jusqu'au second mandat ou un autre mandat?
J'ai lu que c'était moi qui l'avais enterré. J'ai rien enterré, moi. J'ai simplement dit qu'il n'y a pas de voie de passage sur cette réforme des retraites pour plusieurs raisons. L'ambiance dans le pays. Vous imaginez, vous remettre ce sujet-là sur la table dans ce climat qu'on vient d'essayer de décrire, d'inquiétude, de difficultés économiques malgré tout, etc. Impossible. Il n'y a pas de voie de passage parlementaire. Enfin, c'est un débat long, une réforme des retraites. C'est pas possible. Donc, on va pas faire une concertation factice. On a tous autre chose à faire. Et moi, j'ai dit au Premier ministre, nous ne participerons pas à une concertation qui servirait à élaborer le programme d'un candidat.
Qu'est-ce qu'il a répondu, Castex? Jean Castex.
Le Premier ministre, il nous a dit qu'il avait écouté et qui.
Est-ce que vous l'avez convaincu?
Je crois, j'espère.
Laurent Berger, est-ce qu'Emmanuel Macron continuera à porter la réforme universelle que vous avez défendue avec le gouvernement, là, maintenant ou plus tard?
En tout cas,
vous avez des assurances?
Non, j'ai pas d'assurance et j'ai des doutes. Ce qui est les expressions qui sont mises aujourd'hui sur la table. On parle davantage de la question de l'équilibre budgétaire des retraites que de la question de la justice sociale. Et vous savez combien la CFDT, elle est intéressée à ce que notre système des retraites soit beaucoup plus juste. Notamment pour tous ces travailleurs dont je viens de parler, de ceux qu'on a qualifiés improprement parfois, mais de travailleurs de deuxième ligne, c'est ceux-là qui pourraient bénéficier d'un système universel des retraites.
Donc vous avez peur d'une réforme paramétrique
oui,
la prochaine fois?
Oui, c'est un des risques, bien sûr.
À propos du télétravail, la ministre Elisabeth Borne semble vous avoir écouté, car il n'y a désormais plus de nombre de jours minimal pour le télétravail. Où se situe le bon équilibre dans le télétravail?
C'est difficile à dire comme ça, vous voyez, généralement. Nous, sur le télétravail, on pousse maintenant les négociations des entreprises ou des administrations. Dans les deux cas, dans le public comme dans le privé, on a des accords cadres qui permettent de savoir où on veut aller. Beaucoup d'accords sont à 2 jours de télétravail, possibilité de 3 jours par semaine. Mais évidemment, tout ça, ça doit se négocier au plus près des réalités de travail.
Et toujours sur la base du volontariat?
Oui, bien sûr. La base du volontariat, la réversibilité. On peut vouloir un moment et pas vouloir le lendemain. Évidemment, en continuant d'avoir des temps collectifs au travail. Je pense qu'on en a tous bavé En tout cas, beaucoup de salariés en ont bavé d'une forme d'isolement pendant cette période. Donc moi, je ne suis pas tellement sur un monde du travail idéal où chacun serait dans son coin. C'est autre chose, le travail, c'est une compétence collective, c'est du frottement, c'est du dialogue. Donc c'est entreprise par entreprise, administration par administration, où maintenant, il faut négocier. Et on constate quoi ? Des entreprises qui le font, et ça se met en place petit à petit. On s'habitue à travailler différemment. Hein, parce que... Et puis des entreprises qui vont retomber dans leur verticalité. L'employeur va décider comment va s'organiser le télétravail. Et là, il y a de gros risques de tension à un moment donné.
Mais dans ce monde d'après, quel monde d'aujourd'hui maintenant, les grandes entreprises notamment ne pourront plus se défaire de ce télétravail. C'est acquis ?
Oui, je crois que dans la tête de beaucoup de travailleurs, c'est acquis que il faut, il y a la possibilité de télétravailler et que ça apporte aussi à tout ça évidemment est général, mais ça apporte du plus.
Est-ce que vous redoutez notamment
dans des régions où il y a beaucoup de temps de transport?
Est-ce que vous redoutez notamment que ce télétravail, c'est un renforcement des pratiques de surveillance à distance? Ça vous inquiète, ça?
Vous savez, dans cette, faut partir de ce qu'on a vécu pendant cette période. Pendant cette période, les entreprises, elles n'ont pas pu contrôler exactement. Il y a une confiance un peu obligée. Et finalement, ils se sont aperçus de quoi? Que le risque, c'était pas que les travailleurs travaillent pas, c'est qu'ils travaillent trop. Donc, c'est vrai qu'il faut réguler, il faut surveiller notamment les risques psychosociaux, il faut surveiller l'intensification du travail. Et là, il y a un rôle du management dans les entreprises qui va totalement bouger. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir son collaborateur en face, on va l'avoir à distance. Et donc, moi, je crains...
Ce sont les cadres moyens qui vont traquer,
ouais,
peut-être
je pense qu'ils vont avoir un autre rôle. Et donc, ça mérite que ce soit négocié entreprise par entreprise. C'est là le sujet, en fait.
Alors, la crise sanitaire n'est pas derrière nous. On a tous compris qu'on allait même vers une troisième dose de vaccin, des vaccins ARN messagers essentiellement. Est-ce que tous les bénéfices doivent revenir au seul laboratoire pharmaceutique? Qu'est-ce que vous dites sur ça?
Nous, d'abord, on dit que sur le vaccin, d'abord...
C'est sur les bénéfices en fait ma question.
Oui, bah,
est-ce que tous les bénéfices doivent aller à ces laboratoires pharmaceutiques? Qu'est-ce que vous dites sur ça parce qu'elles ont bénéficié d'aides importantes,
ouais,
également de l'État dont on parlait au début de l'entretien.
Je suis pas naïf. S'il y a pas de bénéfices pour ces laboratoires, il y a pas de vaccin à l'avenir. Donc parce qu'il y aura plus d'intérêt à les faire pour eux. Mais c'est pas anormal qu'ils redistribuent une partie. Et comment ils peuvent redistribuer? Peuvent redistribuer, notamment en faisant en sorte que ce vaccin soit davantage diffusé partout dans le monde. Moi, je crois que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que on est dans un pays
pauvre,
très... bien sûr, on est dans un pays très bizarre. On est dans un pays qui conteste la vaccination. Certains le contestent et demandent que les brevets soient élargis pour tous les pays. Moi, je demande que ces laboratoires y redistribuent gratuitement aussi des vaccins partout dans le monde. On voit bien ce que ça procure, y compris en France, avec les territoires d'outre-mer, une faible vaccination. Ça nous reviendra en pleine figure. Alors, si il n'y a pas d'espace pour la solidarité internationale dans la tête de certains, à ce moment-là, qu'ils prennent leur pragmatisme en main, et il y a besoin de diffuser ces vaccins. Et les laboratoires, ils peuvent le faire.
Il nous reste 30 secondes à peine à propos d'alternance. Pourquoi souhaitez-vous rempiler à partir de 2022, juin 2022, à la tête de la CFDT?
Bon, je vais être très franc, j'y comptais pas avant la crise sanitaire. On a pris du retard parce qu'on a aussi dû travailler différemment. Il y a une volonté des équipes CFDT que de repartir.
Lancez la machine, quitte à abandonner le mandat au milieu de parcours.
Mais c'est pas de l'abandon, c'est qu'à un moment donné, on verra. Personne n'y est remplaçable dans une organisation. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et puis on va vivre une année tellement compliquée que c'est pas mal un peu de stabilité.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, merci et bonne journée.